goût du monde. Clémence Denavy.
Dans ses plis, la pâte cache une farce. C'est un mystère, toujours un mystère, un ravioli. Il ne se révèle qu'une fois dans la bouche. Et alors là, l'esprit s'emballe et les sens se cherchent. Quel goût, quelle herbe, coriandre, sarriette, ciboule, quelle épice pour raconter les paysages. La tantana qui savait si bien les façonner. Et puis la surprise du bouillon qu'on n'attendait pas. Et l'on éclate de rire en se laissant surprendre. Des raviolis pour se souvenir, transmettre ou parfois tout oublier. Bonjour, Emmanuel Guillemin-Deschamps.
Bonjour.
Bienvenue à notre table.
Merci.
Il fit un long voyage, a-t-on envie de dire. Et puis on a envie de dire merci. Merci. Vous savez pourquoi?
Non, vous allez me dire.
Bah pour votre passionnante et jubilatoire enquête pastale, j'adore le nom, enquête pastale, enquête sur les raviolis, pour les familles rencontrées sur votre route des raviolis, pour les cultures découvertes, pour la curiosité et la truculence de votre raviolivre, publié aux éditions Kéribus. Vous êtes journaliste?
Tout à fait.
Vous êtes un ancien correspondant de Géorgie et de Russie?
Oui.
Pour la presse et la radio?
Pour la presse et la radio.
Oui, on vous a entendu sur les ondes de RFI?
Tout à fait.
Et Fine Plume pour le journal Libération. Vous aimiez plonger dans nos assiettes et nos marmites, un peu comme on le fait nous ici. Regardez ce que l'on mange et ce que cela dit de nous. Des différences de classe au plat de résistance qui s'établissent au retour de la paix. Aux premières raviolis. Emmanuel, pourriez-vous nous faire un cadeau?
Oui.
Pour commencer cette émission,
plaisir.
J'aimerais bien qu'on sorte du studio. Quelque chose me dit que vous pourriez nous emmener peut-être dans un endroit que vous aimez, pour le partager avec nous, puis nous raconter un petit peu quelle est la température, avec qui on est, qu'est-ce qu'on voit autour de nous, et qu'est-ce qu'on mange.
Alors on pourrait par exemple imaginer qu'on est en Inde, il fait chaud, c'est l'été, c'est la mousson, et ça sent le camphre. Autour de nous, puisqu'en fait, on est en train de tenir une coupelle de riz avec du camphre qui est en train de brûler et qui est en train de répandre son encens dans l'atmosphère. Et là, on est devant un hôtel, l'hôtel de Ganesh, donc, qui est le dieu à la tête d'éléphant, qui est une statuette d'argile peinte dans les couleurs pastel avec des ornements sur le front, sur les oreilles, des diamants, des colifichets. Et un bel hôtel avec des poteaux colorés et un tablier rose. Il faut imaginer aussi au pied de cette idole un tapis de riz, de la coco, des fruits, des fleurs qui ont été cueillies dans le jardin qui est dehors, le jardin vert luxuriant. Et là, on peut imaginer qu'on est en train d'attendre de manger puisque en fait, après la prière, pendant que la femme et le mari de la maison sont en train de chanter les mélopées des prières à Ganesh, sont en train de cuire les modak, qui sont des raviolis de riz à la noix de coco et au sucre de palme, et qui sont tout simplement délicieux, qui sont très gourmands, et qui sont la principale offrande à Ganesh qu'on est en train de faire, puisque c'est la fête de Ganesh, c'est le festival de Ganesh, Ganesha Chaturthi. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans le ravioli en Inde.
Ben voilà, on avait dit que c'était une surprise, le ravioli. Est-ce qu'il est sur votre chemise?
Il est sur ma chemise, tout à fait. Il est là, voilà. C'est la sainte trinité des raviolis avec le modak indien, le xiaolongbao chinois et le rinkali géorgien.
Le ravioli originel, j'ai envie de dire.
C'est le préféré, c'est le premier dans mon histoire. Oui.
On est d'accord que votre livre s'appelle Le tour du monde d'un fou de ravioli.
Tout
donc,
à fait.
Tout ce que vous dites, c'est en votre nom.
Oui, oui.
C'est je considère que, pour moi, le ravioli, c'est le rinkali.
Bah c'est la seule manière de ne pas se faire taper sur les doigts, parce que ça reste une opinion, quoi. Voilà.
Ce volcan de pâte cache sa fougue sous les plis qui ravinent ses flancs en spirale. Car avec le Xiaolongbao shanghaïen, c'est l'un des seuls raviolis au monde qui a eu la bonne grâce de dissimuler dans ses bourrelets de la farce et du bouillon. C'est l'union sacrée, la sublimation à laquelle les Bolognais n'avaient pas songé. Eux qui pourtant servent leur tortellini dans un consommé de volaille, le jus du rinkali comme un torrent grondant et impétueux, charrie les effluves rocambolesques du carvi sauvage. Il roule dans ses flots brûlants de passion des blocs fumants de viande grossièrement hachés.
On sait, on se situe. Et en même temps, on ne sait pas. Ce ravioli, vous l'avez découvert comment? Comment vous l'avez goûté? Et ensuite, qui vous l'a enseigné?
Bah, je l'ai découvert un peu par hasard, comme tous les raviolis, j'ai envie de dire. C'est une découverte qui m'a surpris quand je suis arrivé en Géorgie. Je suis arrivé déjà en Géorgie par hasard. Moi, je parlais russe, donc j'avais envie d'aller travailler un peu dans des pays russophones, mais la Géorgie, c'était un peu un hasard. Et c'est une des premières choses que j'ai mangé là-bas, en fait. Et tout de suite, je suis tombé amoureux. C'était le coup de foudre.
Pourquoi, justement?
Parce que c'est...
Parce que vous avez été surpris par ce ravioli.
Ah oui, le bouillon, c'est-à-dire que la première fois, comme tout le monde, comme tous les profanes, j'ai croqué dedans et le bouillon s'est échappé, la farce s'est échappée dans l'assiette. J'étais un peu piteux. Mais bien vite, j'ai compris comment il fallait faire. Il fallait beaucoup poivrer, déjà, pour avoir bien chaud. Et le manger chaud aussi, brûlant. Et avec les doigts. Ouais. Donc, c'est un ravioli qui est très gourmand, qu'on amène en général en très grande quantité. Qu'on sert aussi à des banquets, les soupras géorgiennes. Et comme on n'a pas fini de tous les manger, puisqu'ils sont en trop grande quantité, et puis qu'il y a d'autres plats aussi, on les ramène grillés à la fin du repas. Donc voilà, c'est la touche finale pour le repas, le petit dessert. Et c'est vraiment le plat national officieux, c'est-à-dire c'est celui qu'on vous dit quand vous arrivez en Géorgie. Mais est-ce que tu as goûté le rinkali?
Et là, il faut être initié et dire oui, tout à fait.
Ah, oui, oui.
Et il y a le petit chapeau qu'on va...
Le petit koudi.
Le petit koudi, oui, c'est ça. Je me suis amusée, je me suis dit, c'est comme les baguettes. Vous savez, les baguettes sur les brochettes qu'on va laisser de côté pour qu'on compte combien de baguettes on a mangé, c'est un peu la même chose.
Oui, oui, ça sert à mesurer un peu sa virilité, puisque c'est quand même un plat qui est fait pour les hommes.
C'est mixte,
pour
cela
les hommes.
Dit,
c'est mixte.
On peut manger.
Tout à fait, bien sûr. Mais dans la tradition, on va dire, géorgienne, c'est comme ça qu'on mesure si on est un bon mangeur ou pas. Et quand on est un vrai homme, il faut en manger 40. Alors moi, j'ai jamais réussi à en manger que la moitié.
Nous, c'est Magda Gegeneva, qui est originaire de Géorgie, qui a été la première résidente au Réfugiés Food Festival, qui, en un jour de 2018, est venue dans ce studio et nous a parlé des rinkali. Et tous autour de la table, on était comme de rond de flanc, avec des yeux écarquillés, en disant « Mais de quoi parle-t-elle ? Des raviolis géorgiens ?»
En fait, dans ravioli, il n'y a pas de bouillon. Mais la différence ravioli et rinkali, c'est ça que quand vous avez mangé rinkali, il y en a un bon bouillon dedans.
À l'intérieur de la ravioli. Voilà. Vous avez goûté déjà, Stéphane, Marine?
Non.
Parce
pas
que
encore.
Moi, j'ai juste vu en vidéo.
Pas
il
encore,
paraît que c'est
encore,
somptueux.
C'est absolument somptueux. Ça ressemble beaucoup à cette petite bouchée chinoise où il y a le bouillon dedans que tu prends, ça éclate. Et je suis très impatient. De toute façon, elle va être obligée de le faire à la résidence.
Obligée. Vous, on le découvre avec Rezo, qui est un homme. Racontez-nous un petit peu.
Alors moi, j'étais seulement dans les conforts de la Touchetti, parce que je n'ai pas fait la grande escalade. Mais c'est un endroit qui est assez magique, qui est fait pour les bergers, les aigles et les guerriers autrefois. Et qui est réputé pour les rinkali, mais ce n'est pas les seuls. Je dois dire que, par exemple, les Refsours, qui sont un autre peuple montagnard, ou les Mtioul, toutes sortes de peuples aussi difficiles à prononcer les uns que les autres, sont quand même passés maîtres dans l'art de faire les rinkali. Et puis, il y a aussi ceux qu'on fait en ville, qui sont faits avec des herbes, et qui sont un peu moins rugueux, quoi, un peu moins pimentés.
On doit être un peu habitué aux saveurs, parce que voilà. Ça englobe aussi les saveurs qui nous entourent.
Ouais.
J'imagine qu'il y a peut-être des herbes particulières qui vont pousser dans cette région, dans les montagnes.
Il y a une sorte de cumin spécial qui se rapproche le plus, c'est du carvi. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle là-bas le cumin des montagnes. Il y a aussi de la sarriette, il y a aussi du piment. Et ça fait un ensemble qui n'est pas trop fort non plus, mais qui est juste relevé ce qu'il faut.
Donc on est bien avec ce rinkali.
On est très bien.
Découvert à Tbilissi, c'est ça?
Oui, à Tbilissi.
Dans la capitale géorgienne. Avant toute chose, vous vous êtes défendu d'écrire une bible sur le ravioli, mais pour écrire un livre sur ce sujet universel, il a fallu choisir.
Hélas.
Donc, il a fallu donner une définition.
Hélas, oui, oui. J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four. Parce que sinon, en fait, j'avais du mal à voir la frontière et savoir où est-ce qu'on s'arrêtait, où est-ce qu'on serait au beignet, au chausson, au friand, à la tourte. Donc j'ai fini par les exclure, mais à grand regret, à contre-cœur, puisque j'ai vu d'abord en Chine, par exemple, que les bannes pouvaient être aussi bien frits que cuits à la vapeur. Et puis il y a aussi les mantis turcs qui sont cuits au four mais avec de la sauce, donc que j'ai inclus quand même. Ou les gyoza japonais qui sont cuits à l'eau et à la...
C'est vrai qu'on vous voit parce qu'il y a vraiment une espèce d'excuse qui est faite pendant que vous parlez,
oui.
Avec vos yeux qui disent « mais j'ai pas eu le choix, il fallait vraiment, mais vraiment je ne pouvais pas les laisser de côté ». Et cependant, c'est un peu ça.
Bah oui, j'en suis bien navré parce que j'aurais bien aimé faire un livre qui fasse vraiment réellement le tour du monde. J'espère que les auditeurs peuvent m'aider à trouver des raviolis. Je viendrai vous voir si vous êtes en Afrique ou en Amérique du Sud.
Donc Afrique subsaharienne.
Oui.
Vous en avez
ou
trouvé
non.
En Afrique du Nord?
Ben en Afrique du Nord, il y a les briques, mais qui sont pareils, frits. Au Sénégal, il y a les pastels. Il y a aussi les samoussa ou les sambosa à Madagascar ou en Éthiopie. Mais tout ça n'est pas cuit à l'eau ou à la vapeur.
Or, c'est votre définition.
C'est ma définition.
Enfin, vous avez noté 4 critères assez clairs. Hein.
Oui, oui.
Il faudrait que je les retrouve là tout de suite. Mais enfin, il y a une notion de tout se tient dans une bouche d'un coup, cuit à l'eau et à la vapeur.
La pâte et la farce sont cuites en même temps.
En même temps, et ça enferme.
Et ça enferme.
Donc normalement c'est fermé, mais c'est pas tout le temps fermé. C'est ce qu'on découvre au fil des pays que vous avez rencontrés.
Il y a toujours des exceptions.
Dans lesquels vous avez voyagé. Alors j'aime aussi le fait que vous avez parlé de ces raviolis que vous n'avez pas pu voir in situ dans leur pays d'origine. Mais bon, comme vous êtes un gourmand, sur la fin vous avez quand même essayé de caler en vitesse dans un dernier chapitre, notamment concernant les gyoza et tous les autres bouchons laissés sur le côté du chemin.
Bah oui, j'ai pas pu aller en Argentine pour goûter les raviolis importés d'Italie. J'ai pas pu aller effectivement à La Réunion pour les bouchons, ou en Thaïlande pour le chor myang, qui est un ravioli de la cuisine royale, qui a une couleur magnifique violette. Mais j'ai tenu effectivement à les signaler pour déjà avoir le moins de plaintes possible de la part des lecteurs, parce que je sais que c'est quelque chose auquel les gens sont attachés, à leur cuisine, à leur patrimoine culinaire. Et puis, je me dis qu'au fur et à mesure des voyages, j'aurai peut-être l'opportunité de les découvrir, enfin.
Il y a aussi dans le nom, quand on pense ravioli, on pense tout de suite Italie. Mais ça, c'est récent.
Récent, relativement. Enfin, ça date du Moyen-Âge, quand même. C'est effectivement récent, si on regarde l'histoire des raviolis chinois qui datent du 2e siècle de notre ère. Mais on n'a pas vraiment de certitude, en fait, sur l'origine des raviolis, sur qui les a inventés, pourquoi. Tout ça, ça reste des mystères.
Qui a eu cette idée de prendre une pâte, de l'étaler et puis de la plier?
Oui, mais déjà de faire une pâte. C'est-à-dire quand on part du grain, avoir l'idée de le réduire en poussière assez fine pour qu'on puisse en faire une pâte, c'est déjà des dizaines ou des centaines de millénaires d'évolution culinaire. Et je trouve ça assez fascinant.
Et nous aussi. Alors, il y a une autre personne qui a initié votre quête pour le ravioli. C'est un souvenir.
Ah oui, tout à fait.
Un souvenir d'enfance.
On pourrait dire que c'est le vrai premier ravioli.
Le vrai premier, parce que le Ringali serait resté au bord du chemin s'il n'y avait eu votre grand-mère.
Voilà, le Ringali a été un peu le déclencheur, celui qui a fait tilt. Mais celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le Jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine. Donc elle était française de parents catalans d'origine algérienne, qui étaient des colons algériens, qui se sont installés en Chine, à l'aube du XXe siècle. Et ma grand-mère est née là-bas, elle a grandi là-bas avec une nounou chinoise, elle a appris à parler le chinois, elle a appris aussi un peu à faire la cuisine, et quand elle est rentrée en France, elle nous faisait des soupes chinoises, du chou chinois, et de temps en temps, trop rarement malheureusement, des jiaozi, qui sont les raviolis du nord de la Chine, puisqu'elle avait grandi dans le nord de la Chine, à Tianjin.
Voilà. Et vous avez pu les retrouver, ces jiaozi?
J'ai pu les retrouver, tout à fait. En fait, la première fois où je suis allé en Chine, c'était en 2011, et c'était justement pour aller sur les traces de ma grand-mère. Je cherchais sa maison d'enfance, que j'ai trouvée au bord de la mer, et je cherchais aussi le goût des jiaozi d'enfance, que j'avais toujours en tête. Mais je ne les ai pas retrouvés tout de suite. Il a fallu que j'aille au fin fond de la Chine pour aller dans une petite cantine, où là, enfin, j'ai retrouvé ce goût plein, savoureux, riche. Et ensuite, je suis retourné pour le livre, dans une famille, au Nouvel An, puisque c'est au Nouvel An qu'on les fait. Et là, ça a été vraiment magnifique.
Quelle émotion ça a dû être pour vous?
Bah oui, j'ai parlé de ma grand-mère, j'ai parlé des quelques mots de chinois qu'elle m'a légués. Malheureusement, elle n'était plus là pour parler avec ces gens, mais elle l'avait fait quand j'étais allé en Chine. Je lui avais fait parler à un chinois qui m'avait accompagné et qui avait certifié qu'elle avait bien l'accent de Tianjin.
Formidable, merci.
Ashi dunia da hira gara shi dunia da Ashi dunia da nya gara shi dunia da Ashi dunia da baba gara shi dunia da bada Ndigara mani nanduru nyamma fala mani Ndigara mani ay kul kallango ga fala mani Ndigara mani Nigo ye ima fala mani Nyagara shikacha Asi gara shikacha Gaga gara shikacha Wala bere gara shikacha Ala bada Aira gara tider bayi kanda Buni jindura nishilayibu Aira gara tisambu Vashande irangu kalamafiri Thank you.
Yermaka Yermata Shikara Yermata Shikara Airaka Gati Nendur Nyandura Mantifala Anduyaka Mantifala Mantifala Jiri Hinka Mantifala
Gara de Sangoy Blues, un titre choisi et mitonné par l'équipe de la playlist de RFI. Vous nous rejoignez, bienvenue. C'est le goût du monde en voyage sur les routes des raviolis avec Emmanuel Guillemin Deschamps, journaliste et ravioli envoûté puisqu'il sillonne le monde à la découverte de ces raviolis, à la découverte et à la rencontre de ceux qui les font. Son raviolivre est un journal de voyage, de reportage, de rencontres jubilatoire, savoureux, drôle et délicat. Quel est le plus étonnant ravioli que vous avez découvert au fil de vos voyages?
Alors, je pense que c'est celui que je porte à place d'honneur sur mon poitrail.
Ah, c'est un ravioli magnifique.
C'est le Shanyaoban. Oui. C'est un ravioli pourpre qui est fait à partir d'igname. C'est ce qui me fait croire qu'on pourrait en trouver en Afrique aussi ou en Amérique du Sud. C'est un igname qui est spécial, qui est pourpre et qui lui donne cette couleur vraiment que j'ai appelée zinzoline, qui est très, très flashy, très psychédélique. Et c'est un ravioli que j'ai trouvé par hasard en cherchant un autre ravioli. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur d'autres raviolis que ceux que je cherchais.
C'est ce que vous dites en Chine, c'est ce qui vous arrive tout le temps. Vous ne trouvez jamais celui que vous cherchez, mais vous trouvez plein de choses extraordinaires.
Voilà. Je cherchais le Fenguo, qui est un ravioli à la peau transparente, cristalline, et finalement j'en ai trouvé plein de cette famille qu'on appelle les ban, qui sont des raviolis faits à partir soit de farine de riz, soit là en l'occurrence d'igname et de manioc.
Et taro aussi.
Taro aussi, oui. Oui. Taro, oui, citrouille.
Parce que ces différentes pâtes, en fait, il en existe de toutes céréales, de toute matière pour pouvoir faire une pâte.
Oui, tout à fait.
À travers le monde.
Bah, en Chine, j'en ai même vu qui étaient faites à partir de chair de poisson ou de chair de porc. Pilé jusqu'à en faire une crème et ensuite lié avec de la fécule de manioc.
D'accord.
C'est fin comme du papier.
D'accord.
Et ça donne une texture un peu soit râpeuse pour le poisson, soit gélatineuse pour le porc.
Incroyable, incroyable. Mmh. Ça doit être très bon.
C'est très bon.
Surprenant,
ouais.
Aussi,
ouais,
non?
Ouais, très surprenant, ouais. Très impressionnant à voir faire.
Ça doit demander énormément de temps, de patience.
De patience, de muscles. La dame que j'ai vu faire ça agitait une sorte de rouleau marteau qui pesait près d'un kilo. Avec laquelle elle tapait, elle roulait, jusqu'à en faire voilà, une feuille de papier. Quoi.
Vous nous avez rapporté d'ailleurs quelque chose que vous m'avez fait peser. Qu'est-ce que c'est?
Tout à fait.
C'est un ustensile.
C'est un ustensile de cuisine professionnel. On me l'a offert dans un restaurant à Wuxi, donc à côté de Shanghai. Et c'est un rouleau en laiton qui est très lourd et qui sert, quand on a le bon geste, à faire une enveloppe de ravioli, un disque de pâte en quatre coups de rouleau. Comme ça, paf, 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 paf. Il est lourd, il aplatit la pâte plus rapidement, mais il faut faire attention à ne pas écraser la pâte ou à ne pas la faire coller. Donc c'est tout un art que moi, j'ai encore un peu du mal à maîtriser, mais ça va de mieux en mieux, on va dire.
Cependant, vous maîtrisez le rinkali maintenant.
Le rinkali, ça va. Oui.
Ce qui est passionnant aussi quand on vous suit dans vos reportages, c'est qu'on vous suit vraiment, ou plutôt vous nous embarquez. Mmh. On a l'impression d'être à côté de vous, de regarder, d'observer, de suivre les mouvements, les gestes. Parce qu'il y a des moments où on aimerait trop être à sa place complètement. Quelle rencontre vous avez faite? Quelle rencontre? Les rinkali, on est en Géorgie, vous allez également en Russie, où il y a des pelmenis. Mmh. Et puis après, vous faites un tour qui m'a beaucoup marqué dans les Balkans, notamment en Bosnie.
Dans une famille très chaleureuse, très sympathique, qui m'a accueilli. Et avec, c'est vrai, un côté très touchant, parce que le père de famille, donc, qui avait à peu près mon âge, lui a grandi avec la guerre. C'est-à-dire qu'il a fui la guerre en 1992 dans une région de Bosnie qui a été particulièrement marqué par le nettoyage ethnique. Lui, il revient en vacances, alors qu'il n'a pas le droit en théorie, puisqu'il est, il est réfugié, pour sa protection. Et il revient quand même pour les vacances dans un quartier qui n'est habité que l'été et que pendant les vacances par des réfugiés qui reviennent de toute l'Europe, de Suède, d'Allemagne, d'Autriche, de France. Et donc, en fait, avec lui, n'importe quelle balade se tourne à la procession mémorielle. C'est-à-dire que partout, il voit des fantômes. Quand on est allé chercher la viande au magasin pour faire les raviolis, c'était le magasin où, au sous-sol, son père a été torturé pendant la guerre. Donc c'était vraiment un voyage très marquant, comme un voyage dans le passé et en même temps dans le futur, puisque les enfants, eux, qui vivent en France, avaient pas du tout le même vécu. Ils étaient beaucoup
même
plus légers.
Femme, je crois,
même
aussi.
Sa femme, je pense que c'est peut-être par la créativité qu'elle infuse dans la pâte, la versatilité avec laquelle elle fait toutes sortes de pâtes farcies qui était impressionnant. Je pense que le fait de créer, de produire, permet peut-être d'échapper aux fantômes.
On a vraiment une dimension de transmission, évidemment, au gré de vos rencontres, et une dimension aussi d'oubli, d'abandon. En fait, cette pâte, elle englobe plein de choses, bien au-delà de ce que l'on va manger.
La pâte, elle accueille, elle pardonne les offenses qu'on peut lui faire, c'est quelque chose qui est presque vivant. En fait, il y a d'ailleurs des mythes, j'ai parlé de l'Inde et de Ganesh. Ganesh a été fait à partir de poussière de santal, un peu comme de la farine finalement, et c'est en modelant des petits farcis comme ça qu'on lui rend hommage. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment de cosmique dans la pâte. C'est un peu, moi je dis toujours que c'est le bouillon du Big Bang, c'est-à-dire d'abord on ajoute de
c'est
l'eau dans la farine.
C'est un peu chinois ça aussi comme théorie.
Peut-être. En tout cas j'essaie de remonter le plus loin possible. Et oui, il y a quelque chose vraiment qui nous relie à la Terre et à l'espace.
Le goût du monde sur Radio France Internationale.
Je me dis, en tant que journaliste, vous faites attention à ce qu'on mange. Est-ce que la ravioli est une porte d'entrée, ou en tout cas vous permet d'aborder des cercles dans lesquels vous ne pourriez pas rentrer s'il n'y avait le ravioli comme presse d'identité, vous voyez?
Ah, tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment en tapant à la porte.
En Autriche, par exemple.
En Autriche, par exemple, ou en Allemagne. Et je suis arrivé, alors j'ai fait du troc, j'ai proposé mes bras pour faire des travaux dans une maison, pour pouvoir ensuite avoir ce cadeau qui est, en effet, le ravioli, c'est vraiment un cadeau, puisque c'est un plat qui prend beaucoup de temps et de savoir-faire et d'amour. Et donc, c'est quelque chose que j'ai accueilli comme tel, et c'est ce que j'ai aussi essayé de transmettre dans le livre, c'est que le ravioli cristallise les dynamiques familiales, alors l'amour, mais aussi parfois l'aigreur, parfois le ressentiment, parfois le temps qu'on passe à faire les choses. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui marque tout le monde, puisque quand je parle des raviolis, je me suis aperçu, avant de faire le livre en fait, quand j'avais fait des articles pour Libération, je me suis rendu compte que ça éveillait des étincelles dans les yeux de mes interlocuteurs. Et je pense que c'est pas par hasard, il y a quelque chose qui remonte vraiment très profond dans la pâte, dans la farce, et qui fait que qu'on partage quelque chose de plus que de la nourriture.
Est-ce que ce serait pas aussi dans la façon dont on fait communauté? Parce qu'on fait rarement des raviolis tout seul, en fait. Généralement, ce sont des femmes. Je crois qu'il y a un seul homme qui doit faire des raviolis.
Il y a Réseau, donc, en Géorgie, et il y a le...
La touche de souche.
Le grand-père.
J'aime l'expression.
Et il y a le grand-père en Chine aussi, qui fait des raviolis. Et non, c'est trois en Corée aussi. Ouais. Non, il y en a quelques-uns.
Souvent, c'est quelque chose que font
les
femmes.
Mais c'est souvent les femmes, oui. Je pense, par exemple, à ce cercle de femmes en Turquie, qui se réunit tous les jours pour faire des raviolis et les vendre. Et c'est une farandole de couleurs et de rires. Elles passent leur temps à blaguer, à s'échanger les nouvelles, un peu de la famille, des petits derniers. J'ai vu ça aussi en Italie. C'est vraiment quelque chose qui rassemble, c'est une activité communautaire.
On fait ensemble, on plie, on couvre, on met la pâte, on fait la farce, fait cuire tous ensemble. En Italie aussi, ce banquet antifasciste.
Oui, les Capelletti.
Alors l'Italie, c'est presque une évidence. On arrive en Italie après la Russie, après la Géorgie, et dans l'ordre géographique qu'on a emprunte sur vos pas dans votre livre. L'Italie, c'est une évidence. Ils ont laissé leur nom quand même à cette bouchée.
Oui, c'est une évidence. C'est un des pays où il y a le plus de noms, de formes différentes de ravioli. C'est vraiment quelque chose qui... Alors, on parle souvent du nord de l'Italie, qui est un peu le roi des pâtes farcies, l'Émilie-Romagne, Bologne, qui est la mère des tagliatelles et des tortellini. Mais j'ai découvert qu'il y en a aussi partout dans le sud. Il y en a en Sardaigne, en Sicile, en Basilicate. Et c'est vraiment quelque chose qui est associé à la fête, qu'on fait souvent pour Noël ou pour Pâques, qui se tourne de toutes les façons, de toutes les formes.
Quel est le ravioli qui vous a... C'est un peu difficile comme question. Parce
alors, le plus mystérieux que j'ai trouvé, c'est un ravioli qui est transatlantique, qui a fait un aller-retour au-dessus de l'océan et qui vient d'Italie, très certainement, mais on ne sait pas. C'est une femme que j'ai rencontrée à Udine, dans le nord-est, au-dessus de Venise, au nord de Venise, Gabriella Di Lorenzo, qui vient d'Argentine. qui est d'origine italienne. Son arrière-grand-mère avait émigré en Argentine. Et elle, trois générations plus tard, elle est revenue en Italie. Et là, elle s'est mise à faire pour ses enfants les raviolis que sa grand-mère lui avait appris et qu'elle pensait que tout le monde connaissait en Italie et qu'en fait, personne ne connaît, qui sont des raviolis, une sorte de gnocchi farci et qui sont pour moi un peu la margarita du ravioli puisqu'on les sert avec de la tomate fraîche, du basilic, du parmesan et des zestes de citron. Donc ça fait un mélange blanc, rouge, vert. Et ce ravioli-là viendrait peut-être des Marches, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Gabriella a enquêté longtemps pour savoir d'où il venait et on ne sait pas d'où il vient. Donc c'est sans doute un enfant de l'émigration qui est revenu au pays. Et je trouve que c'est une très belle histoire.
C'est ça que racontent les raviolis aussi, c'est qu'au fil de leur voyage, au fil des émigrations, ils se sont teintés, ils ont emprunté dans leur farce, ils ont ajouté leur histoire.
Oui, bien sûr. Ce qui est étonnant aussi, c'est de voir les gestes qui se transmettent. Alors, on ne sait pas s'ils ont été inventés simultanément dans différents pays ou pas. Mais par exemple, le geste de la tresse qu'on retrouve en Sardaigne, qu'on retrouve...
Lors de la tresse, ça veut dire que la pâte est pincée sur le sommet du ravioli.
Sur le dessus du ravioli et ça forme comme une tresse, en fait. Quelqu'un m'a offert une théorie pour cette forme qui revient jusqu'en Chine, dans l'Oural, en Italie. C'est les cheveux, tout simplement, le tressage des cheveux, qui est quelque chose qui revient aussi dans un peu le monde entier. Et comme c'est effectivement un plat qui est surtout fait par les femmes, on peut se dire que voilà, ce geste de pincée, qui est exactement le même selon les pays, eh ben on le retrouve comme ça, sans qu'il ait forcément voyagé.
En tout cas, on peut se rassurer parce que grâce au cahier central qui se trouve dans le radiolivre, très pragmatique, parce que ce ravioli, à force d'en parler, on a très envie d'en manger. Donc il faut apprendre à savoir les faire. Or, vous nous aidez, parce que vous nous donnez des dessins qui nous montrent comment faire si on veut arriver à manger des raviolis avant qu'il soit minuit.
C'est ça.
On est d'accord.
Ouais, il faut s'y prendre à l'avance.
Il faut s'y prendre, bien s'organiser.
Ouais. Mais j'aimerais bien que ça redevienne quelque chose de communautaire dans nos pays où ces habitudes se sont un peu perdues, de passer du temps pour préparer la nourriture,
ensemble.
Passer du temps ensemble. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des recettes et ce guide pour surtout donner des petits conseils en cas d'échec, parce qu'il y a toujours des choses qui vont rater un peu au début et même à la fin, même quand on a une certaine expérience, il faut savoir rattraper une pâte qui se déchire ou qui est trop sèche. Mais avec un peu d'expérience et un peu d'enthousiasme, on y arrive toujours. Je fais souvent des ateliers avec des gens qui n'ont jamais fait de ravioli. Ils se débrouillent toujours comme des chefs. Donc,
justement, voilà. Qu'est-ce que ça vous procure de voir tous ces gens qui se mettent à faire des raviolis?
Ah ben, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. c'est très agréable. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est surtout de voir le sourire sur le visage des gens une fois qu'ils ont créé quelque chose et qu'ils le mangent eux-mêmes. Ça, c'est quand même toujours quelque chose de magique.
Le temps passé à préparer ces raviolis et le temps passé à les manger, en un éclair, c'est extrêmement frustrant.
Ah oui.
Que ce soit en Corée ou en Chine, c'est un peu le constat que vous avez dressé.
C'est pour ça qu'il faut en préparer beaucoup. Pour être rassasié dans la vie.
Merci beaucoup en tout cas Emmanuel.
Merci.
Merci infiniment. Emmanuel Guillemin Deschamps, Raviolivre. Le tour du monde d'un fou de ravioli est publié aux éditions Kéribus. C'est un voyage en papier cadeau de pâte. Une aventure jubilatoire et qui dure par bouchée. On le picore avec délice. Là je vous dis comment je l'ai mangé. Merci beaucoup à Stéphane Desfossé pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde. À vous tous de nous rejoindre chaque semaine. Clin d'œil évidemment à Thierry, à Malika, à Bofa, Valérie, Céline et Kenly, Luna, évidemment aussi complice de Ravioli. Pour écouter Le Goût du Monde, c'est en podcast sur Pure Radio ou avec votre appli préférée. Très bonne semaine à tous et très bonne fête à tous.